de Pierre Abardel, je dirais, se situe au carrefour de quatre mondes qui sont des points d'intérêt des questions vives pour l'INRP. Il y a les questions d'éducation, et Pierre Abardel a été au début de sa carrière, il y a quelques années, conseiller d'orientation donc dans l'éducation nationale. Et il a pu s'intéresser là aux questions du travail, dans une perspective d'orientation scolaire ou professionnelle. Ensuite, il y a le monde de la formation professionnelle, de l'ergonomie cognitive, des instruments. Et j'ai découvert, ce que je ne savais pas, que Pierre Abardel avait été pendant de nombreuses années à l'INRP, donc il retrouve ici un peu une partie de ses racines, où il a travaillé sur les enseignements techniques et professionnels, et il s'est intéressé à former des professionnels, notamment à travers l'utilisation du dessin technique, hein, où il a pu repérer l'écart entre les formations théoriques générales qui étaient proposées aux professionnels et puis les besoins précis qui les amenaient dans un processus de formation. Puis il s'est engagé dans la préparation d'une thèse avec Gérard Vergniaud. Puis il y a eu l'élaboration que l'on sait, et puis le bouquin que tout le monde connaît, que Hélène signalait ce matin sur les instruments. Et puis il y a d'autres mondes aussi. Il y a le monde de la didactique. Alors Pierre Abardel a travaillé en particulier avec les didacticiens des langues, mais nous on l'a rencontré à propos du didactique des mathématiques depuis 1999, une école d'été que j'ai cité ce matin, où la communauté des didacticiens des mathématiques s'est intéressée à l'intégration des instruments dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Donc là, un autre monde qui nous est familier. Et puis, il y a un dernier monde, le monde des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Pierre Abardel a participé à l'action spécifique, fondement théorique et méthodologique de la conception des EIH, dont le responsable était Pierre Tchounikine. Et action spécifique, ont participé aussi Dominique Guin, Nicolas Balachev, Michael Becker, Derrick, Jean-François Nicot, je crois Monique Baron aussi. Donc il y a de nombreux points, de nombreux mondes qui sont les mondes dans lesquels les recherches que nous conduisons évoluent. Donc tous ces points font que l'intervention de Pierre Abardel était tout à fait pertinente aujourd'hui. Alors j'ajouterai peut-être pour situer cette intervention dans l'avenir, hein, que pour la coordination TICE de l'INRP qui se restructure, c'est une intervention qui peut contribuer à la délimitation ou à l'émergence d'outils communs. Donc c'est certainement très intéressant pour notre coordination TICE-INRP. Et peut-être à plus long terme, je dirais, il y a une orientation de l'INRP qui n'est pas encore enfin dans la préparation du prochain quadriennal, autour de structuration universitaire classique, type UMR, et puis autour ensuite d'équipes un peu plus vagues d'expertise de ressources. Je crois qu'une réflexion comme celle d'aujourd'hui est importante aussi parce qu'elle montre qu'il n'y a pas de développement de ressources et de réflexion sur les ressources sans un ancrage universitaire, sans un ancrage dans la recherche. Développement de ressources, un objet de recherche tout à fait profond et que l'INRP doit traiter en tant que tel. Bien, Pierre, je te laisse la parole.
Bien, donc bonjour. Alors, effectivement, je viens de l'INRP d'une certaine façon. Et du coup, c'est effectivement avec un certain plaisir et puis aussi une certaine émotion que je viens faire une intervention ici. J'ai travaillé avec des gens qui sont encore à l'INRP, dont quelqu'un qui travaille toujours sur les questions de technologie et d'appropriation des technologies, qui est Pierre Vérillon, qui est donc un de vos collègues pour certains. Et je vais en donner un tout petit bout d'histoire parce que c'est à l'INRP que l'approche instrumentale est née. Donc je vais vous en dire un tout petit bout du début. Et puis je passerai ensuite. Je suis un peu loin du micro. Donc, je vais. Alors ça ne va pas être commode pour moi. Bon, donc je vais vous dire un petit mot du début de l'approche instrumentale. J'avais été nommé dans un département de recherche qui s'occupait des enseignements techniques et professionnels à l'époque, donc à une époque assez reculée maintenant. Et il y avait deux voies de formation, en gros. En gros, il y avait du côté des enseignements techniques les gens qui voulaient donner une valeur égale aux enseignements techniques, pour les enseignements techniques aux enseignements plus classiques. et qui donc était dans une recherche de conceptualisation et finalement d'une recherche d'une technologie, c'est-à-dire d'un discours savant sur la technique. Cette voie s'est beaucoup développée, elle a donné lieu à des créations dans l'enseignement technique, mais aussi dans l'école élémentaire, dans l'école moyenne. Et puis il y avait aussi l'idée que l'enseignement technique était une voie de réussite pour des gens qui avaient échoué dans l'enseignement classique ou qui ne s'adaptaient pas à l'enseignement classique. Et qu'il fallait essayer de comprendre pourquoi ces réussites-là se développaient. Et donc, par quelle voie, d'une certaine façon, à travers l'action, des possibilités de développement conceptuel et de développement théorique, même pour un certain nombre d'élèves, se produisaient. D'où l'idée d'aller s'interroger sur en quoi les objets matériels fabriqués pouvaient être porteurs de connaissances. Et apportant des connaissances au sujet. Alors je dis objet matériel fabriqué parce qu'au début ce n'était pas des instruments, ça s'appelait comme ça, c'est le terme qu'on avait trouvé pour parler de ces objets-là. Et on avait un cadre de ressources qui était de ressources au sens théorique, qui était le cadre de l'action piagétienne, avec l'idée que les connaissances surgissent de l'action, enfin surgissent, sont construites à partir de l'action, sont abstraites à partir de l'action, et que du coup, en le liant avec les théories de l'activité, avec ce qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire assez bien Leontief, un tout petit peu Vygotsky et pas du tout Rubinstein, que vous ne connaissez pas encore parce qu'il n'est pas encore traduit en français, ça sera bientôt le cas. Donc en le liant avec les théories de l'activité, on se disait, dans les artefacts, ce qu'on a fini par appeler les artefacts après, il y a une culture cristallisée, comme disait Leontief, il y a de la connaissance cristallisée, et par leur usage, par l'apprentissage de leur usage, et par l'action avec ces artefacts, on va avoir un développement potentiel, pas forcément de conceptualisation générale, mais en tout cas de germes de conceptualisation sur lesquels on va pouvoir bâtir un certain nombre de choses. L'idée qui avait derrière ça, enfin le concept d'apprentissage qui avait derrière ça, c'était un concept d'apprentissage par l'action, d'une part, de conceptualisation autour de l'action, mais c'était aussi une naïveté behavioriste qui était que les environnements sont suffisamment contraignants, on peut contraindre suffisamment l'environnement pour qu'on oblige le sujet à conceptualiser dans l'usage. On savait qu'on conceptualisait dans l'usage, mais nous, on voulait forcer ça à travers des environnements pédagogiques. Donc, cette hypothèse-là. On l'a développée aussi sous la forme d'un dispositif robotique et d'un certain nombre de tâches qui étaient des tâches de transport d'objets avec une variation des interfaces pour éprouver l'idée que certaines interfaces donneraient des représentations plutôt d'un certain type et d'autres plutôt des représentations de type spatial tridimensionnel. Alors d'une certaine façon, oui, c'est bien ça qui s'est passé. Mais en même temps, on était absolument incapable de tenir notre dispositif expérimental parce que les sujets n'arrêtaient pas de s'évader de la contrainte des tâches. Et d'une certaine façon, ce qui a été prouvé à ce moment-là, enfin pour nous en tout cas, c'est qu'on ne pouvait pas construire un dispositif suffisamment contraignant, en tout cas de cet ordre-là, pour que la conceptualisation se produise comme on avait envie qu'elle se produise. Il fallait en rajouter à ça, en permanence dans l'expérimentation, un certain nombre de contraintes, de variations de la tâche qui guidaient finalement le sujet. Et la conséquence aussi, ça a été que nos hypothèses behavioristes, enfin que je peux dire behavioristes après coup, mais nos hypothèses de contrainte de l'activité par le système se sont révélées tellement fausses et les expérimentations ont duré tellement longtemps par rapport à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire de 1 à 2 heures alors que nous imaginions que ça durerait 10 minutes, qu'on a été obligé d'amener des hypothèses complémentaires, et notamment de dire, pour que un artefact, le terme d'artefact est né à ce moment-là, devienne un instrument, il y a un processus qui est un processus de genèse instrumentale. Alors, ce n'était pas la Bible. On avait pris Genèse parce que l'école de Genève, à cette époque-là, après la disparition de Piaget, s'était retournée vers toute une série de travaux autour de Inhelder et qui s'intéressaient aux micro-genèses. Et donc, on a repris le terme de Genèse qu'ils utilisaient au sens de micro-genèse et on l'a transporté dans le champ instrumental. Donc, c'est d'un échec théorique qu'est née l'idée de genèse instrumentale. Du coup, ce qui était en jeu, c'était le modèle de l'homme que nous avions. Alors, il n'était pas complètement faux, mais en tout cas, le modèle de l'homme dans ses rapports à un environnement que nous voulions être un environnement d'apprentissage ou un environnement de conceptualisation dans lequel on manipulait un certain nombre de variables de la situation. Alors, je dis ça comme ça parce que évidemment, ça a beaucoup d'écho par rapport à la didactique aujourd'hui. Et on avait une réponse qui s'est révélée relativement fausse à cette question du modèle du sujet que nous avions à l'époque. On a donc construit un modèle, des modèles du sujet alternatifs, et notamment l'idée qu'on n'a pas exprimé comme ça à ce moment-là, mais l'idée que l'activité est nécessairement créative. Elle ne peut pas être simplement guidée par les murs du dispositif ou un certain nombre de contraintes extérieures. Elle est créative parce que dans l'activité, le sujet suit son propre chemin, parce qu'il y a des variations qui s'introduisent et qui viennent du monde. Il y a des événements du monde qui font que les situations changent en permanence. Et il y a des évolutions des situations qui sont introduites par le sujet lui-même et qui ne sont pas prédites par lui et qui ne sont pas prédictibles. Ça, c'est pour l'activité que je vais appeler l'activité productive. Et puis, par ailleurs, cette question des genèses nous a renvoyé plus tard, enfin, conceptuellement avec des constructions conceptuelles qui sont plus tardives, à l'idée d'une activité constructive, c'est-à-dire une activité dans laquelle le sujet développe ses ressources et ses moyens pour le futur. Alors, si je reprends un peu cette histoire, c'est avec évidemment un peu d'émotion, mais c'est aussi poser une question qui est une question, je pense, fondamentale, qui se pose dans tout le champ des EIH, ENT, etc., c'est au fond, à quel sujet ces dispositifs doivent-ils être adaptés? Quel sujet visent-ils? Alors, dans le champ de la didactique, dans le champ de l'information, dans le champ de l'apprentissage, nous vivons depuis fort longtemps, en Europe en tout cas, avec un sujet qui est un sujet à dominante cognitive et épistémique. Au fond, on pense beaucoup la formation, l'apprentissage, l'enseignement comme une construction cognitive. Or, le sujet au quotidien, le sujet que nous sommes, c'est un sujet, bien sûr, qui connaît, qui construit des connaissances, mais même qui va chercher à construire des connaissances. Mais c'est d'abord un sujet capable, c'est-à-dire un sujet qui agit en visant des buts, en étant poussé par des motifs et en cherchant à introduire des transformations dans le monde, que ce soit le monde réel ou des mondes sémiotiques, etc. Alors, cette conceptualisation en termes de sujet capable que j'évoque maintenant, c'est une conceptualisation qui consiste au fond à renverser le chemin ou l'articulation sujet épistémique, dimension épistémique et dimension opérative du sujet. Parler de sujet capable, c'est parler d'un sujet qui, dans son activité, est piloté se dirige par l'action dans le monde, pour agir dans le monde, et dont la cognition est subordonnée, l'activité cognitive est subordonnée à cette action dans le monde. C'est-à-dire, en gros, 99%, ou pour certains, 95% de l'activité cognitive. Ce sujet-là ne s'oppose pas au sujet épistémique. Simplement, pour le sujet épistémique, l'activité est gouvernée par la production de connaissances, alors que pour le sujet capable, qui peut être la même personne, bien entendu, qui est la même personne, l'activité est gouvernée par l'atteinte des buts, par les motifs, par les systèmes de valeurs, par les critères qui vont avec. Cette formulation-là peut paraître délicate, peut paraître renversante, mais je pense qu'on n'y coupera pas, d'une certaine façon. Et j'écoutais ce matin les trois interventions de mes collègues, avec l'oreille, enfin avec plusieurs oreilles, au moins trois ou quatre, mais en tout cas une qui était fixée sur l'idée d'action. Et dans toutes les interventions, la question de l'action, de l'interaction, de l'interagissement, etc., était au centre de l'intervention. Alors, au centre, dans une perspective de formation, mais au centre. De ce point de vue-là, je dirais que les sujets capables auxquels on a affaire dans les EIH, on les a évoqués ce matin. C'est les destinataires des TIS, c'est les destinataires de ces systèmes, c'est-à-dire les apprenants et les enseignants et les formateurs. Et donc, à l'évidence, ces systèmes doivent être adaptés au sens large à ces catégories-là. Et puis, ce sont les concepteurs qui sont en demande d'éléments et de données pour travailler. Faire des EIH, c'est comme faire d'autres types de systèmes informatiques ou non. C'est les faire pour leurs destinataires, mais c'est aussi comprendre l'activité de ceux qui les fabriquent et des concepteurs pour pouvoir donner des éléments et des recommandations et des perspectives d'action qui soient adaptées à cette activité. Et si on est dans un co-agir ou dans un multi-agir, je ne sais pas, en tout cas entre les didacticiens et les concepteurs et producteurs de systèmes, il faudra bien sûr que les concepteurs de systèmes se rapprochent des sujets que sont les enseignants et les didacticiens et les apprenants, mais il faudra aussi que forcément, nécessairement, les gens qui sont du côté de la formation ou du côté de la formation se rapprochent des activités des concepteurs. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est ce que la plupart d'entre vous ont dit ce matin. C'est que le lieu où peuvent se passer ce type de mariage, ce sont des lieux d'équipes pluridisciplinaires ou multidisciplinaires ou des réseaux ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce ne sont pas des lieux de travail séparés. Ce ne sont pas des lieux de travail où on se passe les résultats de l'un à l'autre. C'est des lieux où on se fréquente. Alors, je dis ça en prêchant d'une certaine façon pour ma propre paroisse, bien que je n'ai pas besoin de le faire. Nous, équipe de conception, dont le thème est conception, création et usage, à Paris 8, une équipe d'ergonomie et de psychologie, nous avons fait mouvement vers le laboratoire Paragraphe, que je ne dirige pas, qui est un laboratoire d'informatique et d'hypermédia, parce que précisément, nous avons besoin de travailler avec des gens qui sont dans le domaine de la conception et eux-mêmes ont besoin de travailler avec nous. Et je suis frappé de voir que c'est une préoccupation qui est largement partagée ici. je continue sur mon sujet capable. J'allais dire un certain nombre de choses, mais beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin. Mais en termes de modèle du sujet, il y a une chose qui me semble importante, en tout cas dans ce qui sort de l'approche instrumentale et d'un certain nombre d'éléments qui viennent des théories de l'activité, c'est l'idée de médiation. L'idée de médiation qui est d'une certaine façon, non pas le contraire, mais en tout cas qui n'est pas entièrement cohérente avec l'idée d'interaction. Pourquoi ? Bien entendu, le sujet, nous-mêmes, nous interagissons avec les dispositifs, avec les autres, etc. Mais en même temps, nous sommes en rapport avec nos objets d'activité à travers les dispositifs. Les dispositifs ne sont pas simplement des environnements pour nous, ils sont à la fois des moyens d'action, ils sont aussi des objets où se trouvent nos objets d'activité, des artefacts où se trouvent nos objets d'activité. Et en termes de modèle du sujet, je pense que la question de la médiation est tout à fait essentielle parce qu'elle introduit un certain nombre d'interrelations qu'on ne peut pas avoir dans une simple problématique de l'interaction. Une des évolutions importantes qu'il y a eu dans la pénétration du champ des human-computer interaction par les théories de l'activité, ça a été de poser, et ça ne s'est pas fait en France, ça s'est fait notamment en Scandinavie, de poser la question de l'interaction comme étant qu'est-ce qu'il y a derrière l'interface, ce qu'il y a non pas de ce qu'il y a à voir, mais c'est quoi les objets sur lesquels travaillent véritablement les sujets avec, à travers les dispositifs qu'on lui donne. C'est quoi ces objets d'activité. Les travaux de Bodker ont été très importants dans ce domaine et sont très intéressants. Notre sujet capable est un sujet outillé. Alors ça, il n'y a pas besoin de le démontrer ici, manifestement. Un sujet outillé pour le développement, pour l'activité. Et je reviens sur les concepts d'activité productive et d'activité constructive pour dire qu'au fond, on est pratiquement obligé, je pense, enfin en tout cas, il est heuristique de penser l'activité comme se différenciant en deux grands types ou en deux grands volets. D'une part, l'activité productive, qui est une activité qui vise à la réalisation des buts pour lesquels on s'est engagé dans l'action. Et dans l'enseignement et la formation, cette activité productive n'est pas simple, puisqu'on vise à la fois la réalisation de tâches immédiates, la résolution d'un exercice de mathématiques ou des choses comme ça, et on vise aussi des objectifs qui sont des objectifs d'évolution, de transformation, qui touchent cette fois à une autre dimension, qui est l'activité constructive. Et par activité constructive, ce qu'il faut entendre, en tout cas c'est la façon dont nous l'avons défini, c'est l'activité qui vise au développement des ressources, des moyens, des instruments divers de l'activité par les sujets eux-mêmes. C'est donc à la fois un sujet de l'agir au quotidien, d'un agir situé, d'un agir normé aussi, un sujet qui fait avec les péripéties du monde et qui en crée. Et puis c'est un sujet en développement, un développement de type apprentissage, construction de connaissances, mais aussi un développement opératif plus général. Il y a donc des genèses instrumentales, il y a des genèses cognitives, des genèses conceptuelles, et puis un développement identitaire. Et par développement, j'entends évidemment un cours de vie et pas simplement quelque chose qui puisse être pensé comme majorant. Il y a du développement, même quand on est dans une situation de décroissance. Il y a un développement dans le vieillissement, il y a un développement dans le handicap évolutif, etc. J'articule ces deux points avec la question de la médiation. Les médiations dans l'activité productive, c'est-à-dire l'activité singulière, ce sont des médiations à l'objet de l'activité. On est en relation avec l'objet de l'activité sur lequel on travaille, même quand cet objet est symbolique. Ce sont des rapports aux autres, toujours. Même quand ce ne sont pas des rapports directs, les Russes et les Soviétiques ont montré que l'activité était en relation aux autres. Yves Clou a repris ça sous le thème de l'activité adressée. Et puis c'est un rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une médiation que nous avons appelée la médiation réflexive. Et en permanence, nous sommes dans ce rapport réflexif à nous-mêmes. Dans ce rapport réflexif à nous-mêmes, plus ou moins conscient d'ailleurs, mais dans ce rapport réflexif à nous-mêmes, dans l'activité singulière au quotidien, dans l'activité productive au quotidien, et dans ce rapport réflexif à nous-mêmes, dans l'activité constructive. Et du coup, dans les EIH, il me semble, et par exemple la question des traces peut-être s'examiner dans une perspective de ce genre, dans les EIH, on est à la fois dans un rapport réflexif à l'action qu'on vient de faire, ou l'action en cours, mais il y a aussi, me semble-t-il, besoin d'un rapport réflexif à quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution et du développement. Rapport réflexif à l'exercice qu'on vient de faire et l'enseignant qui vous demande comment vous avez fait pour trouver ce résultat. Et je suis sûr que même crypté, les traces, ils arriveront à se les échanger pour répondre à cette question. Et puis, rapport réflexif à soi-même. Alors, à un soi-même dans le passé, puisque les traces relèvent de l'activité antérieure. Et on peut se dire, par exemple, que convenablement outillé, un sportif, un spécialiste, un musicien, etc., peut avoir un rapport à lui-même dans le passé, sur comment il jouait, ou comment il courait, ou comment il faisait telle ou telle activité il y a 6 mois, et où il en est maintenant, comment il l'a fait maintenant. Mais aussi dans un rapport réflexif au futur, parce que les genèses instrumentales, les développements instrumentaux constituent en fait des médiations du soi-même aujourd'hui avec le sujet futur qu'on va être. Elles s'inscrivent dans le parcours de vie, elles projettent le sujet dans le parcours de vie. Alors ça, c'est pas une idée simple, c'est une idée qu'on peut creuser en travaillant à partir des apports de Ricoeur sur l'homme capable, justement. Je ne sais pas très bien où j'en suis sur le plan temporel. Comment ? Ah d'accord. Bon, il me semblait que ça faisait un moment déjà. Donc sujet de l'activité, sujet du développement. Les deux. Et un développement qui concerne le sujet dans son entier, et donc toute activité particulière, comme l'apprentissage des maths ou toute autre chose, bien sûr est sectorielle pour le sujet, mais en même temps, c'est une activité du sujet tout entier et qui concerne le sujet tout entier. Si je dis ça, c'est parce que dans nos domaines, alors quand je dis nos domaines, c'est la didactique, moi j'ai plus travaillé sur la didactique technique et professionnelle, mais dans les autres disciplines, c'est la même chose. C'est aussi vrai en psychologie. On a tendance à rapporter l'activité des sujets au champ de la tâche auquel on le confronte. Ce qui est évidemment nécessaire et important. Mais en même temps, cette activité, et notamment la dimension constructive, elle est à rapporter aussi à l'ensemble des autres activités, au système des activités qui sont celles du sujet. Dans le bouquin qu'on a évoqué là, il y a un article sur les systèmes d'instruments. On a limité dans cet article sur les systèmes d'instruments le système à l'activité du domaine professionnel, mais un système d'instruments, les systèmes d'instruments d'un sujet couvrent l'ensemble des domaines d'activité dans lesquels il est. vous n'avez pas des maths différentes, ou pas très différentes, pour aller faire vos courses, ou pour résoudre les problèmes de mathématiques du gamin, ou pour toute autre utilisation mathématique que vous avez. Alors, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, on est bien obligé de penser qu'il y a un rapport entre les champs d'activité des domaines d'activité. Les instruments sont organisés en système. J'ai le sentiment que ça aussi, c'est un point important du point de vue de la conception des EIH, des TIS, pour deux raisons. Une des raisons, c'est celle qu'a dite Luc, et que j'ai compris vraiment aujourd'hui d'ailleurs, bien que j'ai été dans son jury de thèse et où c'était déjà. C'est la raison de l'orchestration. C'est-à-dire que évidemment, dans le cours de l'activité, dans le cours d'une situation, surtout une situation qui est plus ou moins réglée par quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre, ce qui est la situation d'enseignement, il n'y a pas un seul instrument qui intervient. Il y en a toute une série considérable, il y a toute une série de buts, etc., qui, d'où l'idée d'orchestration, puisqu'on fabrique des situations pour l'apprentissage et l'enseignement. Mais d'une certaine façon, alors je vais employer le terme, et je ne pense pas qu'il soit très bon, mais je vais parler d'une auto-orchestration, mais ce n'est pas un très bon terme. Oui, je vais faire ce saut-là, comme ça, pour essayer de nouer un peu les choses. Hein. Je vais parler d'une auto-orchestration par le sujet, c'est-à-dire que dans le cours de son activité productive, dans le cours d'une activité productive qu'il a l'habitude de mener, le sujet organise son activité en séquence, avec des structures, d'où l'intérêt des questions de traces. Et il organise aussi la mobilisation de ses ressources autour de cette structure-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des schèmes d'utilisation, enfin des schèmes d'usage, mais il y a des schèmes d'activité instrumentées. Et Luc en a évoqué un ce matin, ou je ne sais pas, un de nos collègues en a évoqué un ce matin, c'est pas Luc. Bon. Alors, il y a auto-orchestration par le sujet dans l'activité productive. Il y a auto-orchestration structurée et conservée comme un variant mobilisable à travers les chaînes d'activité instrumentées. Et puis, il y a, et ça n'est pas la même chose, une organisation systémique des instruments, c'est-à-dire de l'ensemble des ressources dont dispose le sujet pour agir et interagir dans ses domaines d'activité habituels, dans l'ensemble de ses domaines d'activité habituels. D'où une idée avec laquelle je suis assez en résonance là. C'est l'idée qu'on puisse suivre à la fois les systèmes d'instruments, les systèmes d'activité, leur articulation dans l'activité, dans les activités productives, mais aussi leur évolution dans les activités constructives. Alors, j'ai évoqué les genèses instrumentales, les genèses conceptuelles, qui chez le sujet capable, qu'on peut, chez le sujet capable, considérer comme des genèses opératives. J'ai évoqué cette idée forte qu'a avancée Pierre Pastré dans le livre, qui est celle des genèses identitaires, qui est du coup à l'évidence d'un autre champ que celui de l'opératif, mais qui est quand même du champ du sujet capable. Et puis, dans un des petits textes, dans un des textes, pas petit, mais un des textes qui m'a été envoyé, bref textes qui m'ont été envoyés, il y a l'idée de communauté. Et il me semble, une idée sur laquelle on n'a pas beaucoup travaillé dans le champ instrumental pour le moment, il y a eu des travaux dans le champ instrumental sur les aspects collectifs, avec des thèses, plusieurs thèses sur les CSCW. Mais on a peu travaillé sur les questions des communautés. Et j'ai l'impression qu'il y a là une piste assez importante qui a été évoquée ici encore ce matin, qui est celle de... Alors je ne sais pas si on peut parler de jeunesse communautaire, surtout en ces temps de Sarkozyste aiguë, mais... Bon, Voilà. Hein. Les collectifs et les communautés, c'est pas pareil. Les communautés de pratique, il faut voir quelle terminologie on peut utiliser. Mais l'idée que dans une communauté, il puisse y avoir des jeunesses constructives, un développement constructif, des ressources, pas individuelles au sens où je viens de l'évoquer, mais au sens où la communauté est engagée dans ce développement, où on organise des pratiques autour de ça, où on donne des occasions et des perspectives pour le faire, ça me paraît être une idée importante et une idée qui rejoint beaucoup la question les thèmes de la conception dans l'usage et pour l'usage. Pour l'usage, on pourrait bien dire que les modèles initiaux, les premières versions, sont de l'ordre de la conception pour l'usage et que, reprenant la terminologie qu'a mis en place Viviane Folcher, cette conception se poursuit dans l'usage, que ceci pourrait être quelque chose qui fait partie des spirales qui sont pas encore organisées pour la plupart, mais qui pourraient donner lieu à organisation. Pas simplement des cycles qui s'emboîtent, encore que peut-être il y a des cycles qui s'emboîtent, mais un véritable mouvement qui est à la fois un mouvement réflexif et constructif qui pourrait être outillé. Et après tout, dans le champ éducatif, certainement, on est dans une institution dont ça pourrait être pour partie le rôle. Conception dans l'usage, conception pour l'usage, une multiplicité de concepteurs qui sont à la fois des concepteurs que nous avions appelés institutionnels, c'est-à-dire des gens dont c'est le métier et dont c'est la fonction, qui sont capables de faire un artefact qui va fonctionner, qui sera robuste, comme disent les collègues, c'est-à-dire pas un simple démonstrateur qui va résister aux assauts de l'usage, mais qui pourra aussi d'une certaine façon engranger, alors je ne sais pas si c'est engranger le bon mot, mais qui est suffisamment plastique, malléable pour être développementable, c'est-à-dire qu'il se prête aux genèses et qu'il puisse les inscrire, ou qu'on ait un moyen de les inscrire dans des versions successives qui peuvent se retraduire dans un CV, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Alors, une des conséquences de ça, c'est que la conception, c'est pas ce qu'on dit habituellement. Enfin, encore que ici, on a beaucoup dit que la conception, c'était justement pas ce qu'on dit habituellement. La maille habituelle dont on pense, avec laquelle on pense la conception, c'est bien une maille qui est celle de l'institution. La conception, c'est les concepteurs qui la font. Et du coup, la question se pose toujours de la frontière avec l'usage. Mais la question de la frontière avec l'usage se pose comme une question quasiment indécidable tant qu'on n'a pas pris en compte le fait que la conception est aussi dans l'usage, se poursuit dans l'usage et dans l'usage créatif et développemental qu'en font les sujets. La conception, c'est donc un processus qui porte sur probablement l'ensemble de la vie de l'artefact et même il y a une conception, je pense, de la façon de le détruire maintenant, de la façon de le recycler, de la façon de le rendre au néant de la matière, si j'ose cette formule. Et dans le champ de la conception, il y a des usages évidents qui sont aussi, d'une part, ceux des outils du concepteur, mais aussi les modèles qu'a le concepteur de l'usage, c'est-à-dire que comme l'a dit l'un d'entre vous ce matin, le premier utilisateur du dispositif conçu, c'est le concepteur lui-même, c'est le concepteur en tant que personne, c'est-à-dire ne voyant pas ses propres problèmes, par définition ses problèmes de l'agir, et avec un modèle de l'utilisateur qui est souvent assez mince et sur lequel du coup il faut que les didacticiens, il faut que les gens spécialistes du domaine et des sciences humaines et de la formation puissent nourrir les modèles et apporter des modèles qui soient des modèles captables, développementaux aussi pour les concepteurs. Je dois être presque au bout de mon temps, je suppose. Alors, Juste peut-être terminer alors sur les questions de capacité et de pouvoir d'agir, sur lesquelles qui sont les frontières, nos nouvelles frontières, si j'ose cette publicité nous voulez. Alors pourquoi capacité et pouvoir d'agir? Pourquoi est-ce qu'on en est là finalement? Ben on est là parce que on est dans la suite de la question initiale des années 80. Que peut-on apprendre par l'action de la conceptualisation des instruments, de l'instrument comme entité mixte, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui appartient à l'artefact, mais qui n'est pas l'artefact? Alors je dis ça parce que la question des frontières de l'artefact est une question là aussi quasiment indécidable. Si on ne se met pas du point de vue du sujet lui-même, du point de vue en tout cas qu'il porte en acte. Le point de vue que porte le sujet en acte, c'est ce qu'il prend de l'artefact comme moyen de son action à un moment donné. Et du coup, c'est forcément limité. La part artefact de son instrument est un petit bout du système technique. L'unité de l'artefact pour le sujet n'est pas la même que pour d'autres personnes, et notamment, elle n'est pas la même que celle du concepteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appris le terme d'artefact et pas celui d'objet technique. Le terme d'objet technique nous renvoyait sans cesse à une unité préformée au bon sens du terme, c'est-à-dire la chose qui avait été conçue par ceux qui l'ont conçue. Or, la chose qui est prise en compte par le sujet n'est pas la même, d'un point de vue subjectif. Et du coup, la part artefact de l'instrument, ben, nous, on la définit comme ce qui a été fait par les hommes, etc. Je ne vous décline pas la définition, mais tel que c'est pris par le sujet, pris en compte par le sujet. Et un tas de travaux sur la représentation, etc., ont montré que, eh ben, on se représente que une toute petite partie des systèmes. Des tas de travaux ont montré que c'est pas parce qu'on connaissait mieux le fonctionnement qu'on savait mieux s'en servir, enfin, etc., etc. Donc, d'un point de vue subjectif, l'artefact n'est pas la même chose que l'identité de l'objet social. Et puis, de l'autre côté, ce qui est instrument, c'est le schème. Hein? D'ailleurs, chez Piaget, il y a même pratiquement que ça. Enfin, c'est les structures, en tout cas, chez lui. Et ce que nous avons fait, ce que je pense qui est important, ce qui se poursuit d'ailleurs là, c'est que ce qui est mobilisé comme ressource par le sujet, c'est bien le couple, ce couple formé et construit par lui, qui est un mixte, une entité mixte, qui n'est ni dedans, ni complètement dedans, ni complètement dehors. Hein, si on voulait la dessiner, elle serait non pas complètement entre le corps du sujet et l'objet de son activité, mais d'une certaine façon, elle prendrait un bout du monde extérieur et prend un bout du monde intérieur. Et c'est cet ensemble-là qui fait que, dans une formule un peu imagée, on a pu dire que la peau du sujet capable n'est pas celle du corps. La peau du sujet agissant, elle passe au bout de ses instruments. En prenant cette position, on prend une position va dans le sens d'interrogation qu'il y a eu depuis longtemps dans le champ psychologique. Pendant très très longtemps, il y a un certain nombre de gens qui se sont posés la question de où est-ce que l'aveugle sent? Est-ce qu'il sent au bout de sa canne? Ou est-ce qu'il sent au bout de sa main? Au fond, quelle est la peau perceptible de l'aveugle, hein, d'une certaine façon? Et bon, la majorité de la réponse dont on n'a rien fait pendant très longtemps, c'était justement que c'était au bout de la canne, au bout de la sonde pour le chirurgien, au bout de... Et maintenant, on a des réponses qui sont empiriques et expérimentales à ces questions et qui vont dans ce sens-là, y compris par l'imagerie cérébrale, où les aires de contrôle des instruments artefactuels externes s'étendent de façon visible au-delà des aires de contrôle du corps propre. Un chemin donc, qui nous amène vers les instruments, qui nous amène vers les systèmes d'instruments, mais qui nous amène aussi, à cause des systèmes d'instruments, à voir que dans les systèmes d'instruments, et ça c'est un des résultats importants des recherches actuelles, dans les systèmes d'instruments, les instruments sont vicariants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un instrument pour une chose. Chaque instrument remplit un certain nombre de fonctions, et plus ou moins, de façon plus ou moins adaptée, etc., et peut se substituer à d'autres. Par exemple, une collègue, Christine Vidal, a montré que pour assurer des questions de sécurité, dans une dans le champ électrique, les opérateurs doivent, d'un seul coup j'ai un retour réflexif un peu différent, les opérateurs doivent suivre des consignes qui sont de cadenasser les disjoncteurs quand ils interviennent sur une armoire électrique ou plus loin, et selon la situation, s'ils savent que ce sont des équipes d'intervention extérieures à l'entreprise qui sont passées, ils font ça. Qui sont là, ils font ça. Mais s'il n'y a que des collègues, ils se contentent de mettre un scotch en croix sur le disjoncteur qui va avoir exactement le même effet. C'est-à-dire que ça indiquera aux autres qui peuvent passer dans cette armoire électrique pendant qu'ils sont en train de travailler 500 mètres plus loin, qu'il ne faut surtout pas toucher à ce disjoncteur, sinon on va mettre les collègues en danger. Et alors pourquoi c'est possible ? Ce qui est possible avec les collègues n'est pas possible avec, avec une entreprise extérieure. Eh bien, c'est que les collègues, c'est une communauté. Et c'est que dans cette communauté, cet instrument sémiotique peut remplacer l'interdiction physique, est aussi fort qu'une interdiction physique qui est celle du cadenas. Alors ça renforce l'idée de dimension communautaire. Mais l'idée de vicariance, de vicariance fonctionnelle entre les instruments, qu'on a mis en évidence à travers la méthode des défaillances et substitutions de ressources, en disant, si vous n'avez pas ça pour faire ça, comment vous vous y prenez? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Et à ça, on obtient presque toujours une réponse positive. Oui, si je n'ai pas la carte routière, si je n'ai pas le téléphone, si je n'ai pas, je sais pas quoi, le tableau d'affectation des collègues que je suis censé affecter, je peux encore ou je ne peux pas. Mais je peux en faisant comme ça, je peux. Mais si je fais comme ça, ça va être moins sûr, moins pratique, ça va avoir des qualités plus longues. Enfin, et donc, il y a une vicariance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une robustesse du système d'instruments, il y a une redondance entre les instruments, et en même temps, les instruments n'ont pas la même valeur. Ils ont des valeurs différentes, et c'est pour ça que ça forme système. Alors, où c'est une des propriétés du système que ça forme. Voilà. Du coup, puisque un scotch en croix peut être la même chose qu'un cadenas, dans certaines circonstances, il faut qu'on arrive à une conception qui est plus au-delà de la conception instrument à laquelle on était arrivé. Non pas que ça annule la conception d'instrument, pas du tout, mais on a besoin de conceptualiser plus loin. À la fois pour rendre compte de ces vicariances, de ces redondances, de ces structures, et aussi pour rendre compte de l'évolution générique du sujet. C'est ça qui nous a amené à parler de capacité et de pouvoir d'agir. Alors je ne vais pas faire la distinction ici entre le faire et l'agir, encore que oui, peut-être quand même je vais la faire. Alors capacité et pouvoir d'agir, la distinction elle est autour de ce dont le sujet est capable à un moment de son histoire. Et cette notion-là, elle est, me semble-t-il, aussi importante dans le champ, elle est importante dans tous les champs développementaux, que ça soit dans des développements majorants comme l'apprentissage, la formation, etc., ou des développements décroissants comme le vieillissement, le handicap évolutif, etc. De quoi est-il capable? De quoi qu'est-ce qu'il se donne? Je vais trop vite. Qu'est-ce qu'il se donne comme comme orientation, comme horizon de développement de ses capacités, en termes de capacité d'intervention dans le monde. Et nous avons montré, en tout cas à travers quelques exemples et une thèse maintenant soutenue, que dans le domaine professionnel, les capacités d'agir et le système des instruments tendent à être coextensifs au domaine, à coller de façon assez proche au domaine, pour le meilleur et pour le pire, parce que ces capacités d'agir relèvent de constructions invariantes et en même temps peuvent être mises en défaut dès que la situation change un peu. C'est comme ça, par exemple, qu'on explique le fait que des gens très expérimentés, des gens très expérimentés et très forts sur le plan sécurité, peuvent avoir des accidents quand ils changent de lieu de travail. Parce qu'ils ont des structures instrumentales et des capacités d'agir qui sont extrêmement adaptées à la situation et qui peuvent être mises en défaut dans une situation un petit peu ou profondément différente, mais qui ressemble. L'idée de pouvoir d'agir, c'est une idée qui est, elle, plus située. C'est-à-dire que, ce qu'on peut faire, ce qui est en notre pouvoir, au sens « je le peux », au sens du sujet capable, c'est à la fois ce dont je suis capable, mais c'est aussi ce que l'espace, les marges de manœuvre, l'espace de possible que me laissent les circonstances. Et les circonstances, c'est les caractéristiques de la situation, c'est les événements, mais ce sont aussi ce que je suis à ce moment-là. Et par exemple, la fatigue, mon état fonctionnel à ce moment-là, est une composante essentielle du pouvoir d'agir. Je vais finir sur la différenciation entre l'agir et le faire. Pour dire que tout ce que je viens de dire, là, c'est en relation avec le faire. C'est-à-dire avec l'intervention dans le monde, les événements que je peux produire dans le monde, que je regarde comme sur le plan de l'efficacité ou de l'efficience. C'est-à-dire l'efficacité en termes d'atteindre des résultats et l'efficience en termes de rapport entre l'atteinte des résultats et l'économie de moyens. Mais l'agir est plus grand que ça. L'agir humain, il est plus fort que ça. Il est plus large que ça. Il ne répond pas simplement à des critères d'atteinte du but. Il répond aussi à une multiplicité d'autres critères. Il répond à des normes qui donnent le droit ou pas le droit, pour dire les choses de façon simple et même simpliste, le droit de faire ou de ne pas de faire. Et ces normes peuvent être l'objet d'un conflit interne qui peut réduire le sujet à une impuissance de fait. Quelqu'un qui a des normes éthiques sur la vie en société et qui est comptable et à qui on demande de masquer les agissements de la société, de l'entreprise sur le plan comptable, il peut être l'objet d'un conflit et d'une contradiction si grave que ça peut conduire au suicide. Donc l'agir répond à des normes et pas simplement à des critères d'atteinte du but et d'efficacité. Il répond aussi à l'identité du sujet. Nos actes, nous souhaitons qu'ils nous ressemblent, c'est-à-dire qu'ils soient authentiques par rapport à nous-mêmes. Il y a des choses que nous ne voulons ou nous ne pouvons ou nous ne souhaitons pas faire. Et nous ne souhaitons pas les faire, pas forcément parce que c'est interdit, pas forcément parce que c'est impossible dans les faits, mais parce que ça ne me ressemble pas. Par exemple, Vertsch citait les petits-enfants juifs, je crois, d'une école américaine, qui était une école catholique, où on chantait, comme dans les écoles américaines, je suppose, tout le temps, des chants religieux une fois par jour, et où les petits élèves connaissaient parfaitement le chant, le maîtrisaient, mais ne le chantaient pas, ils faisaient semblant, parce que ça n'était pas le leur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Le chanter aurait voulu dire qu'ils étaient quelqu'un d'autre que ceux qu'ils sont. Et c'est un critère d'authenticité qui fonctionne là. Et puis, un dernier critère, mais ce n'est pas le seul, évidemment, qu'on pourrait évoquer, c'est le critère esthétique. C'est-à-dire que nos actions, non seulement nous souhaitons qu'elles soient efficaces, nous voulons qu'elles soient économiques, nous voulons qu'elles répondent aux normes de la société ou à nos normes à nous, qu'elles soient authentiques, c'est-à-dire qu'elles nous ressemblent, mais aussi qu'elles soient esthétiques, c'est-à-dire qu'on parle d'un beau geste, d'une belle démonstration. En maths, on parle d'une belle démonstration. Ça, c'est joli. Hein ? Ça, c'est un critère extrêmement important, qui est un critère de reconnaissance par les autres. Et du coup, pour finir, je dirais que en suivant Ricoeur et un bouquin son dernier bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Parcours de la reconnaissance, on peut dire que la compétence, la capacité, qui est un mot que mobilise Ricoeur, le pouvoir d'agir qu'il mobilise aussi et dont il montre le rapport à la souffrance quand on en est privé, sont les uns et les autres dans un chemin qui est celui de la reconnaissance par soi-même, qui est l'estime de soi, et de la reconnaissance par les autres, qui est le fait de la société et des pairs. Et c'est pour ça aussi que la question des communautés est tout à fait essentielle. Voilà. Merci.